En quoi l'homme de génie diffère-t-il de l'apôtre? Traité éthique religieux, Søren Kierkegaard, traduit du danois par Johannes Gøtzsche, Copenhague, 1886. Notice sur la vie et les œuvres de Kierkegaard. L'auteur, dont nous offrons aujourd'hui les œuvres au public français sous forme de traduction du danois, est sans contredit un des plus remarquables parmi les écrivains religieux et philosophes du siècle précédent. Par malheur, il rédigeait ses écrits en danois, langue peu étudiée hors du Danemark. Sans cela, il serait déjà lu et admiré partout en Europe. La renommée de Kierkegaard va pourtant toujours en grandissant. Pendant ces dernières dizaines d'années, plusieurs de ses écrits ont été traduits en suédois, en allemand et, à ce que je sache, aussi en hollandais. Et il n'y a pas à en douter, à mesure que ses écrits seront lus à l'étranger, on en reconnaîtra de plus en plus la valeur et l'importance. À l'usage des personnes disposées à suivre l'exemple de quelques Allemands qui ont étudié le danois afin d'être en état de lire le texte original des œuvres de Kierkegaard, nous allons tracer un aperçu rapide sur la tendance et le mode de développement de ces compositions. Écoutons d'abord l'auteur dans un post-scriptum à des exhortations publiées en 1851. Un écrivain dont l'activité est graduelle et progressive, et qui a débuté par l'un ou l'autre, cherche au pied de l'autel le lieu de son repos définitif. Plus que personne, l'auteur a la conscience de ses défauts et de ses péchés. Il n'aspire point au nom d'apôtre. Poète et philosophe, d'une façon particulière, il est sans autorité et ne vous apporte rien de nouveau. Il ne prétend qu'à relire, encore une fois, le vieux livre primitif qui traite des rapports individuels des existences humaines, et, si cela est encore possible, saisir d'une manière plus intime l'esprit de la tradition que nous ont transmise nos pères. Kierkegaard préluda par une dissertation sur un traité assez volumineux de l'ironie par rapport à Socrate. Puis, en 1843, il débuta par l'œuvre ci-dessus mentionnée, l'un ou l'autre, en deux volumes. Philosophe et poète, l'auteur expose l'idée de la vie, esthétique et éthique, comme un point d'appui essentiel dans les troubles d'esprit et les conflits spirituels de la société. Il publia ensuite plusieurs écrits moins volumineux, parmi lesquels nous signalons à l'attention le traité Heures d'angoisse, où l'auteur se réfère à Abraham, et surtout à l'Holocauste d'Isaac, afin de nous exposer l'essence de la foi et l'importance de celle-ci quant au rapport de l'homme avec Dieu. Presque de front avec ce livre, il fit paraître Fragments philosophiques, une de ses plus vives sorties contre la philosophie d'alors, surtout celle de Hegel. Aux Fragments philosophiques succéda une œuvre complémentaire plus volumineuse, Post-scriptum peu scientifique et final. Le titre indique que les volumes publiés forment le premier stade dans sa carrière d'auteur. Ses deux derniers ouvrages parurent sous le pseudonyme Jean Climacus. Les écrits antérieurs étaient de même pseudonyme. Dans le titre des deux derniers ouvrages, il déclare en être l'éditeur. Il indique par là qu'il s'est personnifié plus directement dans ses écrits, ou, pour mieux dire, que le contenu en était en rapport plus intime avec sa philosophie sur la vie. Il forme la transition à ce qu'il se proposait comme but principal, savoir d'exposer le christianisme et la foi chrétienne dans leur rapport avec la science et la société. Il réalisa ce problème par deux ouvrages d'Anticlimacus, Malade à la mort et Le christianisme mis en pratique, dont il se déclara aussi l'éditeur. Outre ces ouvrages, parurent encore de nombreuses exhortations intitulées Exhortations chrétiennes, Exhortations diverses, Les œuvres de l'amour chrétien. Par ses écrits, il explique et interprète les paroles de la Sainte Écriture, démontre leur importance pour l'âme par rapport à Dieu et l'éternité, et nous apprend à en faire l'application. Toute la société littéraire d'alors était prise de vertige philosophique. Partout on prétendait que, pour bien saisir ce que c'est que la vie par rapport au monde transcendant et éternel, on ne saurait s'arrêter au christianisme dans sa forme primitive. On devrait d'abord élever la doctrine à une sphère plus idéale, débarrasser de leur forme trop épaisse les idées qui font la substance de cette doctrine et les élaborer par l'intelligence. Par les ouvrages cités plus haut, ainsi que par plusieurs écrits analogues, Søren Kierkegaard combattit ces idées et les efforts qu'on faisait pour les réaliser. Prenant pour point de vue la science, il établit l'incontestabilité de la foi et affranchit le christianisme de la spéculation. La perspicacité de son esprit critique lui fit pourtant reconnaître que, même là où le christianisme paraissait le mieux établi, la communauté de l'Église actuelle, le culte et l'état des âmes étaient peu conformes à l'esprit chrétien tel que l'expose le Nouveau Testament. Par ses réclamations, il espérait que, persuadé, les supérieurs de l'Église et surtout l'évêque principal se prononceraient. Kierkegaard eut alors consacré toute sa productivité littéraire à défendre l'état actuel, pourvu qu'on reconnût combien on s'était écarté de l'idéal et qu'on fit de sérieux efforts pour y atteindre. Ses expériences furent déçues. Il ne trouva aucun appui ni auprès du clergé ni auprès de l'évêque. Celui-ci vint à mourir, et son successeur, ayant un jour en chair, fit mention du décédé comme d'un véritable apôtre, nouvel anneau ajouté à la sainte chaîne des martyrs qui remonte jusqu'au temps des apôtres. Søren Kierkegaard riposta au nom du christianisme par un article très vif dans un journal réputé. Il faisait valoir que la position et la manière de vivre des pasteurs de l'Église les rendaient peu dignes du nom d'apôtre. Ces protestations ne trouvèrent aucun écho auprès du clergé, qui se refusa à reconnaître combien les réclamations de Kierkegaard étaient fondées. Dans une suite de pamphlets intitulée « L'état actuel », Kierkegaard s'attaqua alors impitoyablement et sans trêve à ce qui, selon son dire, était le christianisme officiel. Il accusait le clergé protestant, et surtout les pasteurs en Danemark, de tourner la chose en plaisanterie. Le clergé, pourtant, n'accepta point le défi. Muni de toutes les armes de l'ironie, il continua néanmoins cette polémique acharnée pendant toute une année. La mort l'arrêta en novembre 1855. Nous terminons cet exposé en citant les paroles d'un auteur catholique relatives à Søren Kierkegaard. En lisant ses sermons foudroyants, on dit « Un saint n'eût point parlé avec cette morgue et la logique impitoyable d'un cœur dur. » Et puis vous ajoutez « Il a failli être un saint. »